Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Découvrir qui l'on est pour savoir où l'on va et ce pourquoi l'on est fait, c'est le désir qui habite le cœur de chacun. L'anthropologie chrétienne prend en compte la dimension transcendantale de tout homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine, créée à l'image de Dieu. Nous avons approfondi le mois dernier ce qu'est l'unité de l'homme, corps, cœur, esprit. Je vous propose aujourd'hui de comprendre ce qui distingue l'homme de la femme et ce qui fait leur complémentarité. Bonjour Camille de Certaines.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, diplômée de l'EM Lyon. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps, en plus d'études de philosophie. Avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes, intitulé Mademoiselle Potentielle. Potentielle avec un grand C pour le ciel. Oui. Pour commencer notre échange, je voudrais vous faire réagir à cette citation. À propos de l'intervention du pape Jean-Paul II, le 15 août 1988, dans Mulieris Dignitatem, une lettre sur la femme. Et donc là, c'est le père Pascalide qui rebondit sur cette lettre sur la femme. Il dit « Le pape polonais écarte ainsi la double erreur du machisme qui affirme une inégalité entre hommes et femmes et celle du féminisme selon lequel l'homme et la femme sont non seulement égaux mais identiques. » Camille de Certaines, en quoi ces courants de pensée, le machisme et le féminisme, viennent-ils influencer notre perception de l'identité masculine et de l'identité féminine?
On est vraiment influencé, même complètement inconsciemment, parce que ça voilà, c'est profond dans notre société. Or, il y a vraiment un équilibre à trouver, en fait, entre comme deux écueils d'un balancier qui veut chaque fois aller trop loin. D'un côté, le machisme qui méprise la femme, qui la tient pour inférieure à l'homme, qui veut exacerber les inégalités. Et puis voilà, le balancier repartit vraiment profondément dans l'autre sens, à l'inverse, qui méprise lui aussi l'homme, finalement. Donc, en le tenant distinct de la femme. Mais en même temps, et c'est peut-être son incohérence, le féminisme veut profondément gommer les différences hommes-femmes, mais finalement faisant de la femme un homme comme les autres, en fait un seul genre. Et la voie que l'Église a toujours suivie, que Jean-Paul II a magnifiquement développée, elle est vraiment dans un sommet. C'est toujours un sommet. Ça veut dire réaffirmer la profonde égalité de l'homme et de la femme en humanité et aussi tenir aussi la merveilleuse spécificité de l'homme et celle de la femme. Voilà, il y a vraiment ces deux aspects à tenir.
Et c'est effectivement ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le livre de la Genèse, évidemment, oui. Premier livre de la Bible, « Hommes et femmes, il les créa ». Expliquez-nous, Camille de Certaines, d'où vient ce texte?
Alors, quel est le statut de ce texte? En fait, il y a vraiment deux récits de la création, au premier chapitre de la Genèse et au deuxième chapitre. Finalement, le deuxième chapitre a été écrit avant le premier. Il date du 9e, 10e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment une période pré-philosophique. Alors que le premier livre de la Genèse a été écrit pendant l'exil à Babylone. Donc là, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et les exégètes peuvent le marquer parce qu'on y retrouve des symboles babyloniens. Ces deux premiers livres de la Genèse renvoient au principe de l'humanité, à l'origine. Donc, ça renvoie vraiment à un événement fondateur. Là, on est vraiment dans la structure. Et ce que les exégètes ont remarqué dans la Genèse, c'est qu'on est dans un langage mythique. Qu'est-ce que c'est qu'un langage mythique? C'est vraiment une forme de récit des sociétés archaïques qui veulent expliquer la réalité de manière imagée, de manière dramatique, et donc qui utilisent un langage symbolique très puissant. Alors, attention.
Oui, parce que là, vous dites qu'on est dans le symbole.
Voilà, on est dans le langage mythique.
Le langage mythique, à ne pas confondre peut-être avec la mythologie.
Tout à fait. Mmh. Voilà. Mythique, ça veut pas dire le mythe. Ce n'est pas mythique dans le sens du mythe, parce que le mythe n'existe pas.
Eh oui.
Voilà, on n'est pas dans la mythologie. En fait, vraiment, le langage mythique, c'est ce langage des sociétés archaïques qui exprime un contenu très profond, mais qui n'est pas à prendre à la lettre.
Qui utilise des images, finalement.
Exactement, qui utilise des images. Et on le voit, l'auteur connaît les mythes de la Mésopotamie, qui est vraiment le lieu des premières civilisations. Et donc, il va en utiliser des références, plutôt comme vecteur culturel pour faire passer des idées. mais on est vraiment dans un récit fondateur qui comporte des vérités fondamentales et qui nous dit le plan de Dieu sur la création, qui nous dit le dessein de Dieu sur l'homme. Et donc, c'est pour ça que c'est très bon de s'y pencher.
Oui, alors, donc, ça veut dire que ces textes de la Genèse ne sont pas une légende, ne sont pas une belle histoire qu'il faudrait regarder avec beaucoup de romantisme.
Tout à fait.
Mais c'est vraiment un texte fondateur. Dans ce texte, il y a toute la création des plantes, des animaux, la terre et le ciel. Bah, pardon, je ne le dis pas dans l'ordre. Et puis, l'homme et la femme sont créés les derniers. Que vient signifier cette progression dans la création ?
Oui, voilà. On a vraiment ce récit de la création en 7 jours de la Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse chapitre 2, verset 2. Et on voit que la création est réalisée à partir d'un chaos initial. Il est écrit en Genèse chapitre 1, verset 2, « La terre était informe et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme ». Voilà, donc il y a vraiment un chaos initial et Dieu, Yahvé, va en faire une réalité ordonnée. La terre, le ciel, les eaux, les firmaments, etc. Il y a vraiment un sens dans la création. Un ordonnement. Voilà. Et cette création, elle trouve son achèvement avec la création de la vie. On le voit, le monde est vraiment conçu pour pouvoir accueillir la vie. Et on le voit dans cette création, on voit qu'il y a écrit 6 fois, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon.
Donc à chaque élément créé finalement, tout à fait. Le ciel, la terre, les animaux.
Tout à fait, à chaque fois, il y a cette phrase, Dieu vit que cela était bon. Et la 7e fois, après la création de l'homme et de la femme, il y a vraiment cette spécificité. Là, c'était très bon.
Voilà. Donc Dieu vit que cela était très bon.
Voilà, il vit que cela était très bon. Donc il y a vraiment 2 points. Le premier point, c'est que l'homme est invité à s'inscrire dans cette sagesse du monde, dans ce logos qui gouverne le monde. Ce logos qui est rappelé par saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe, c'est le Logos en grec, c'est vraiment Jésus, le Verbe, la 2e personne de la Sainte Trinité, la sagesse de Dieu. Ça, c'est le premier point, voilà, ce sens, et puis voilà, qui nous rappelle le sens de la vie, de la création, de la vie sur la terre.
Et c'est très beau ce que vous dites, Camille de Certaines, parce que vous dites que finalement, toute la création, elle a été ordonnée pour l'homme.
Oui, tout à fait.
Et c'est pas l'inverse.
Tout à fait. L'homme, c'est vraiment le sommet de la création. D'ailleurs, les scientifiques, quand ils étudient les conditions de l'apparition sur la vie sur la Terre, ils disent qu'il y a une telle infinité de probabilités que, en fait, toute la création se préparait à l'apparition de la vie sur la Terre. Et pourquoi l'homme arrive en dernier ? Pourquoi l'homme est vraiment ce sommet de la création ? Parce que quel est l'objet de l'homme ? C'est de gouverner le monde, de gouverner la création. L'homme a vraiment autorité sur la création. En Genèse 1, 26, il est écrit, Dieu dit... Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Voilà, il y a vraiment cette supériorité de l'homme sur la création.
Et cette notion de maître, finalement, c'est une façon de... C'est ce que vous disiez, c'est gouverner, finalement, cette création.
Oui.
Mais... Avec une bienveillance, avec un soin particulier.
Bien sûr,
et on
bien
le retrouve
sûr.
Dans l'encyclique du pape François sur l'écologie intégrale.
Bien sûr, aussi. Bien sûr, on n'est pas dans une domination sauvage ou arbitraire. Ou voilà. L'homme est là pour faire fructifier la création, voilà, parce que par sa création d'être spirituel, doué de raison, d'intelligence, de volonté, eh bien, il a cette capacité de faire fructifier, d'améliorer la création, de la sauvegarder, voilà.
Oui, de la, comme vous dites, de la faire fructifier.
Oui.
Alors, une fois que l'homme et la femme sont créés, on a ce texte dans le premier chapitre de la Genèse, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Alors là, il y a déjà beaucoup de choses dans ce texte. On va peut-être parler de... Homme et femme, il les créa. Sur ce « et », qu'est-ce que vous pourriez dire, Camille de Certaines ?
Ce « et » est vraiment très important. Ce « et » nous montre que l'humanité est plusieurs. Voilà, l'humanité, c'est l'homme et la femme. Et ce « et » accroche, oui, c'est vraiment une conjonction de coordination. Ça nous montre que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça qui est magnifique. On peut dire que l'homme devient pleinement homme par la femme et la femme grâce à l'homme. Voilà, ce « et », il nous dit l'égalité de dignité. Ils sont tous les deux personnes humaines et il nous dit la complémentarité dans la mission. Ils sont appelés au même bonheur, à la même joie, à la même vie pleine et entière, mais dans des réalisations complémentaires. Voilà. Dans le premier chapitre de la Genèse, on a vraiment un récit objectif de la création. Qu'est-ce que Dieu fait ? Voilà, Dieu crée les plantes, le ciel, la terre, etc. À chaque fois, on a Dieu dit et Dieu fit. Donc, par exemple, au verset 3 du chapitre 1, « Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi.
Mmh. » Voilà. Et on retrouve bien cette force de la parole dont vous parliez tout à l'heure avec le Logos.
Tout à fait, Logos, exactement. Mais c'est différent pour l'homme. Pour l'homme, on a un pluriel. En Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Voilà, donc on a vraiment quelque chose de distinct pour l'homme et la femme. On a une création particulière où on a un pluriel et Dieu crée l'homme et la femme.
Mmh. Donc, pour les, si je résume, pour les luminaires au firmament du ciel, toute la création qui n'est pas la création de l'homme et de la femme, c'est Dieu dit et Dieu fit. Et pour l'homme, c'est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Exactement.
Alors, ce pluriel, qu'est-ce qu'il signifie?
Alors, ce pluriel, il est vraiment très important et de tout temps, en fait, on peut dire que les théologiens ont creusé la signification de ce pluriel. Voilà. Pour saint Augustin, par exemple, ce pluriel qualifie les facultés spirituelles de l'homme. L'homme qui est intelligence, volonté et mémoire. Voilà. Et c'était pour cela qu'on avait le pluriel dans la Genèse. Saint Jean-Paul II, lui, a vu ce pluriel en continuant d'approfondir. Hein. Évidemment, on n'est pas du tout dans une continuité, toujours dans la théologie.
Oui, il n'y a pas d'opposition.
Non, jamais, jamais. Toujours une continuité. Pour Saint Jean-Paul II, en fait, ce pluriel reflète Dieu Trinité. Voilà, Dieu qui est un seul Dieu en trois personnes, qui est donc cette communion d'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, cette relation d'amour. Et donc, si l'homme en tant qu'être humain, l'homme et femme, est créé à l'image de Dieu, Trinité, communion d'amour, eh bien, ça nous dit bien que l'homme et femme sont appelés aussi à la communion d'amour. Et là, on est vraiment dans quelque chose de spécifique pour l'homme. On l'a dit tout à l'heure, hein, pour le reste de la création, on était Dieu dit et cela fut. Là, on est dans ce pluriel, donc il y a un mode de création de l'homme et de la femme qui est différent du reste de la création. Et donc, ça nous montre bien cette place singulière de l'être humain dans la création. Et donc, l'homme, être humain, finalement, quand il est à la ressemblance de Dieu, quand il est en relation, quand il est en communion d'amour, eh bien, c'est là qu'il est le plus homme et femme, c'est là qu'il correspond le plus à ce pourquoi il a été fait, parce qu'il est le plus en relation, qu'il ressemble le plus à Dieu qui est lui-même communion d'amour.
Mmh. Donc, si on comprend bien, en fait, c'est par cette communion, par ce lien entre l'homme et la femme que cette création, finalement, est le plus à l'image de Dieu.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et donc, quand on parle de cette phrase-là, quand on lit dans la Genèse, Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, c'est vraiment de ça dont il s'agit.
Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. C'est vraiment... c'est vraiment ce sens, on est encore dans la finalité, le sens de la création. L'homme et la femme sont appelés à la communion d'amour à l'image de Dieu Trinité.
Voilà, comme il y a cette communion d'amour entre le Père, le Fils
Exactement.
Et l'Esprit Saint. Alors, on va continuer d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces textes de la Genèse et notamment sur la création. En quoi l'homme et la femme sont-ils nécessaires à la création?
Oui. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La création, elle est achevée avec, justement, la création de l'homme et de la femme.
Oui, il n'y a plus rien après.
Voilà, après, c'est terminé.
C'est le repos.
C'est ça, exactement. Dans la Genèse, toujours ce verset 27 là, du chapitre 1 qui est très important. Donc, on l'a lu tout à l'heure, « Dieu crée l'homme et la femme ». Alors, en fait, en hébreu, il est écrit que Dieu crée l'homme mâle, Zakar, et on va dire l'homme femelle, donc la femme femelle, Nekba. Et en fait, là, il y a un achèvement, parce qu'il y a une plénitude d'être dans la création de l'être humain en tant que mâle et femelle. Et on a besoin de l'homme mâle et de la femme femelle pour que la création soit achevée. Il y a vraiment besoin d'avoir cette distinction de l'humanité en homme et femme pour que la création soit complète.
Donc ça, c'est vraiment ce que dit ce vocabulaire, enfin ce, oui. en hébreu.
Exactement, ouais. ça nous dit vraiment, alors on va le développer après, ouais. Ce vocabulaire, il nous montre la distinction et même l'ordination de l'un à l'autre. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un mode spécifiquement féminin d'accomplir la personne et un mode spécifiquement masculin d'accomplir la personne. Et toute la personne, elle est achevée par la complémentarité des deux. Voilà. Si on continue la lecture de la Genèse, dans le chapitre 2, au verset 18 à 20, on comprend que l'homme éprouve une solitude originelle qui est très forte. En fait, Dieu lui demande de nommer la création. Et donc, c'est là où l'homme va nommer chacun des animaux, les plantes, etc. Mais il ne trouve pas d'aide qui lui soit assortie. Là, il éprouve vraiment une expérience de solitude originelle qui est très forte en lui. L'homme est mis face aux animaux pour leur donner un nom. Et alors, nommer quelque chose, cela veut vraiment dire que finalement, c'est comme si on peut faire le tour de l'être pour donner leur identité.
Ça le fait exister aussi.
Exactement. Mmh. Et donc, ça nous redit bien finalement cette supériorité ontologique de l'homme sur le reste de la création. Mmh. Mais parmi les animaux, eh bien, il n'y a personne qui ne lui corresponde. Il n'y a pas d'aide semblable.
Et oui, forcément.
Voilà.
Oui. Personne qui ressemble à l'homme. Oui.
Et donc, voilà. Et là, en fait, on arrive à ce verset 18 du chapitre 2, où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, Dieu dit, faisons-lui une aide qui lui soit assortie.
Alors, on va parler de cette aide et on va parler de cet adjectif assorti, parce que ça, il faut vraiment l'expliquer. C'est pas très simple. Peut-être juste avant, sur cette solitude, en fait... On voit bien que finalement, la femme a été créée pour répondre à la solitude de l'homme. Est-ce qu'on aurait pu dire que la femme aurait pu être créée dans l'autre sens, avant l'homme, pour répondre à la solitude, à sa propre solitude ?
Alors, la femme n'est pas créée que pour répondre à la solitude de l'homme, dans le sens où chacun des personnes est créé pour lui-même. Voilà, donc la femme est créée pour elle-même, mais parce que Dieu voyait bien que sans altérité, en fait, l'humanité n'est pas achevée. Mmh. Voilà, l'homme avait besoin de l'altérité de la femme, de la même façon que la femme a besoin de l'altérité de l'homme. Voilà, il y a vraiment cette épreuve de la solitude pour l'homme. Pourquoi ? Parce que la personne humaine, toute personne humaine, homme et femme, est appelée à se donner. Exactement, est un être de relation, est appelée à se donner. Et on peut se donner à son égal. On peut donner à quelqu'un qui est égal en humanité. Profondément. Et c'est ça qui appelait l'achèvement de la création avec la création de la femme. En fait.
Et on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure avec la nécessité d'avoir cette communion,
oui.
communion d'amour entre les deux. C'est,
oui, oui.
c'est aussi ça, c'est non seulement la solitude, mais c'est aussi l'aide qui soit assortie parce qu'il y a une communion entre l'homme et la femme.
C'est ça, en fait, la solitude appelle en creux, nous redit en creux que l'être est profondément fait pour la communion.
Oui.
L'être humain est fait pour la communion à l'image de Dieu.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Exactement.
Alors, je vous propose qu'on marque une pause musicale et nous allons écouter « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Voilà, nous sommes vraiment dans ce thème interprété par les fraternités monastiques de Jérusalem.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Qu'est-ce qui distingue l'homme et de la femme et qu'est-ce qui fait leur complémentarité? C'est le thème de cette deuxième émission d'Anthropologie chrétienne avec Camille de Certaines. Nous avons parlé en première partie de cette émission de la création, de toute la création et puis comme sommet, la création de l'homme et de la femme. Et nous voulions nous arrêter particulièrement sur cette notion d'aide. Camille de Certaines, l'homme et la femme procèdent d'une même réalité, d'une même origine, d'une même nature. Et puis pourtant, la nature nous montre bien qu'ils sont distincts.
Oui, tout à fait. Oui, voilà, on avait recité ce verset de la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà. Et au chapitre 2 de la Genèse, verset 18, il est écrit « Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. » Voilà, on va un peu creuser ce que veut dire ce mot assorti.
Peut-être d'abord le mot... Non, d'abord assorti, puis après le mot aide.
Voilà, ouais, exactement.
D'accord.
En fait, enfin, voilà, c'est le mot assorti par rapport au fait que la femme est une aide en humanité, qui a une profonde égalité d'humanité de l'homme et la femme. Ce mot « ézer », en fait, il signifie le bouclier, le défenseur, le protecteur. Et donc, la femme est perçue comme un rempart contre la solitude de l'homme. On l'a dit tout à l'heure, voilà, l'homme éprouve cette profonde solitude. Après la création de tout le monde animal, le monde végétal, il n'y a personne qui est comme lui et il a besoin de quelqu'un comme lui. Voilà, donc il y a vraiment cette aide en humanité, voilà, qui nous redit vraiment cette égalité d'humanité. Et en fait, on peut le lire dans la manière dont est créée la femme. Alors, comment se passe cette création? Dieu plonge le premier homme dans une torpeur, il prend une de ses côtes et il en façonne la femme. Et dans le texte hébreu, c'est très parlant parce qu'on a les mots de « ish » pour l'homme et de « isha » pour la femme, en Genèse, chapitre 2, verset 22.
Donc on voit bien dans ce mot que finalement l'un est extrait de l'autre.
Exactement, dans la sémantique, on voit que la femme est tirée de l'homme, en fait de la même vie que l'homme. Cette racine sémantique, elle nous dit quelque chose de la réalité, c'est que l'homme et la femme procèdent d'une même origine, d'une même nature. Il y a vraiment une homogénéité ontologique, une homogénéité d'être des deux termes, de ish et de isha. Et donc vraiment ça nous dit la même nature, la même dignité de personne humaine. J'aime bien cette citation de Hugues de Saint-Victor, qui était un théologien mystique du XIIe siècle. Donc je vous la lis, elle est un peu longue. Elle, donc la femme, elle a été formée à partir de son côté, afin de montrer qu'elle a été créée pour une alliance d'amour. De peur, si elle était faite à partir de son chef, qu'elle ne parût supérieure à l'homme dans la domination. Ou bien, si elle était faite à partir de ses pieds, qu'elle ne parût sujette de l'homme dans la servitude. Et puisque ce n'était pas une suzeraine ni une servante qui était préparée à l'homme, mais une associée, il fallait qu'elle ne fût produite ni de son chef, ni de ses pieds, mais de son côté, pour qu'il connaisse celle qui serait placée auprès de lui. Voilà, il y a vraiment, vraiment cette égalité de l'homme et de la femme. Et d'ailleurs, en fait, bon, c'est un peu pour battre en brèche un préjugé, mais au Moyen-Âge, la femme n'était pas du tout déconsidérée, bien au contraire. En fait, elle avait un statut très puissant, très, très fort, socialement, économiquement, dans la société. Et au contraire, en fait, le statut de la femme a vraiment régressé avec les Lumières, avec le code Napoléon, avec le statut de pater familias qui était repris aux Romains. Mais au Moyen-Âge, et donc Hugues de Saint-Victor est un personnage du Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout de déconsidération de la femme. Voilà. Mais donc cette distinction homme-femme, elle n'est pas opposition, elle est vraiment ordination de l'un à l'autre.
Et bien alors, puisque vous avez parlé de la femme qui est extraite, qui a été créée à partir de la côte d'Adam, c'est vrai que parfois on peut se dire, bon, la côte c'est quand même pas très glorieux, mais finalement le côté,
voilà, c'est ça.
Ça fait penser au côté, au côté du cœur, voilà, même Saint Jean dans son évangile relate qu'il posait sa tête sur le cœur de Jésus, donc finalement c'est plus qu'une côte.
Voilà, exactement, c'est vraiment le côté, c'est vraiment le cœur de l'homme, la même humanité, le même cœur, voilà, la même mission, en fait. La même mission, tout en étant distinct parce qu'il y a une spécificité de l'homme et de la femme, mais la même mission de personne humaine.
Alors ça, c'est sur la notion d'assortiment.
Voilà.
Et puis, il y a quand même Dieu qui dit « faisons une aide qui lui soit assortie ».
Voilà. «
Faisons de la femme une aide qui lui soit assortie ». Et alors là, pareil, ce mot « aide », ça peut être assez mal compris.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le deuxième aspect, le deuxième sens du mot « ézer ». Voilà, en fait, la femme, le mot ézer, pardon, c'est vraiment le secours de Dieu. Et on voit que la femme, c'est comme un cadeau pour l'homme, et en fait, vice-versa. Et donc, il y a vraiment cette complémentarité, cette correspondance exacte. On l'a dit tout à l'heure, chez les animaux, l'homme n'a reconnu aucun être qui lui corresponde. Et en la femme, il reconnaît ce semblable.
Oui, il a ce cri.
Voilà, exactement. Il a ce cri de joie du premier homme en voyant la première femme. « Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair » en Genèse 2, verset 23. L'humanité de chacun ne peut s'accomplir sans l'humanité de l'autre. On voit vraiment que le féminin a du sens pour le masculin et le masculin a du sens pour les féminins. En fait, seuls, ils ne veulent rien dire. L'homme prend conscience de sa masculinité quand la femme est créée. C'est très parlant dans la Genèse, au chapitre 1, quand on parle de l'homme en tant qu'être humain. Il y a une sorte d'indifférenciation sexuelle dans le mot utilisé en hébreu. Mais quand on ajoute la femme, c'est là qu'on va spécifier homme masculin et femme femelle, oui. Si on peut dire. On voit vraiment que la sexuation de l'être humain en homme-femme, ça nous donne bien une distinction de l'un et de l'autre. Et ça se voit dans leur corps. Et ça donne aussi l'ordination de l'un à l'autre. En fait, ça donne notre immense complémentarité. En même temps qu'on a la distinction, on a l'ordination de l'un dans l'autre, en fait. Jean-Paul II écrit dans la catéchèse 14 de sa théologie du corps, il écrit « Le corps exprime la féminité pour la masculinité et la masculinité pour la féminité. Il manifeste la réciprocité et la communion des personnes. » C'est vraiment très fort et en fait, on le voit hein, physiologiquement, le corps féminin est fait pour le corps masculin et le corps masculin pour le corps féminin. Et il y a un petit point qui est important aussi, c'est que Dieu donne la femme à l'homme.
Oui.
Et Adam reçoit la femme, il ne la prend pas. Au moment de la création de la femme, Adam est plongé dans une immense torpeur. Donc en fait, Adam ne prend aucune part à la création de la femme. C'est vraiment...
C'est l'œuvre de Dieu.
Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. C'est écrit en Genèse 2, au verset 22, « Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. » Donc Adam reçoit la femme, il la reçoit comme ce cadeau, comme cette aide assortie qu'il désirait tant, comme sa complémentaire, en fait, celle qui va lui permettre de devenir pleinement homme.
Alors vous l'avez dit, hein, Camille de Certaines, voilà, l'homme et la femme procèdent d'une même réalité, vous avez parlé de la même origine, la même nature, il y a quand même une distinction oui. entre les deux, et c'est ce mot de sexualité qui montre aussi cette distinction.
Oui, tout à fait. Parce que, en fait, la sexualité, sexus, ça veut dire séparé. Donc, on est vraiment dans la distinction de l'homme et la femme. Et c'est au moment de la sexuation, en fait, de la personne humaine qu'on a la création de l'homme et de la femme, en fait. Voilà, vraiment. Et justement, cette distinction, pourquoi, en fait, il y a distinction ? Parce qu'il y a toujours un sens aux choses, toujours une finalité. On l'a dit, on l'a vraiment répété, il y a une finalité de la création de l'être humain en homme et femme. Il y a cette même origine, on redit cette unité profonde d'être, ce statut à part, mais cette distinction, cette sexuation, pourquoi elle est pour la communion. Voilà. Et pourquoi cette communion ? Pour être véritablement à l'image de Dieu, Trinité, qui est cette parfaite communion d'amour. Donc voilà, cette distinction, elle est fondamentale, hein, vraiment, cette séparation de l'humanité en homme et femme. Mais attention, il faut tenir cette distinction, mais il ne faut pas faire de cette distinction une opposition.
Oui, c'est ce qu'on disait au début de cette émission, hein, oui. Avec notamment les deux courants du machisme et du féminisme.
Oui, 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 ouais. Oui, c'est ça. Voilà, il faut tenir en fait cette unité, cette homogénéité, cette complémentarité. On est plutôt dans une... Je préfère voilà, vraiment ce mot de complémentarité, d'ordination de l'un à l'autre, plutôt que d'opposition. Notre corps exprime notre personne. En fait, notre corps, il est le signe de ce pourquoi nous sommes faits. Et nous sommes faits pour le bonheur. Et notre bonheur, il est dans l'amour, il est dans la communion des personnes, il n'est jamais dans l'opposition.
Oui, il est dans le don finalement.
Voilà.
Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est cette distinction entre la complémentarité, enfin oui, c'est ça, il faut tenir les deux en fait, la distinction et la complémentarité.
Oui.
Et pourtant, c'est pas ce que nous dit la théorie du genre, par exemple.
Et oui, voilà. En fait, la théorie du gender, vraiment, on est vraiment là-dedans, nous dit au contraire que les sexes, finalement, n'ont pas de sens, ne sont pas signes. On a vraiment essayé de montrer que notre corps est un signe, qu'il dit quelque chose de notre personne, qu'il dit quelque chose de ce à quoi nous sommes appelés. Et pour la théorie du genre, eh bien finalement, le corps n'exprime rien. Il ne nous dit rien à tel point que les sexes pourraient être interchangeables, que l'identité sexuelle serait une construction culturelle. Pour expliquer ça, on peut un peu revenir sur des bases de philosophie. En philosophie, dans un être, on distingue ce qui est de la substance de ce qui est de l'accident. En fait, la substance, un peu, c'est le substrat, c'est ce qui reste de plus essentiel, c'est le fondement d'un être. Et l'accident, lui, il vient rajouter une qualité, une quantité, il vient rajouter quelque chose à la substance. Pour prendre un exemple, je peux dire que moi, Camille, je suis une femme brune de taille moyenne. Alors voilà, le brune, c'est un accident. Ma taille, c'est aussi un accident. Mais qu'est-ce que je suis ? Mon être, c'est je suis une femme. Le sexe n'est pas un accident. En fait, il ne vient pas se surajouter. L'homme, Dieu a créé l'homme mâle et la femme femelle, si on peut dire, en tant que tel. Et c'est dans cette distinction qu'ils ont du sens. Et donc, en fait, notre sexe masculin ou féminin, il dit notre être. Il dit profondément qui nous sommes. Cette fonction du sexe, elle est vraiment constitutive de ma personne. Mon être de personne est constitué par mon corps en homme ou en femme. Mais ce n'est pas un accident que je pourrais changer. Alors, en fait, finalement, c'est un peu un danger de faire croire qu'on peut changer de sexe. Parce que notre sexe, il ne joue pas simplement sur notre corps, il ne joue pas simplement sur l'aspect extérieur, mais il dit notre être. Alors certes, on peut avoir des opérations et changer de sexe apparent, ou plutôt on peut changer d'attribut sexuel. Mais en fait, ça ne va pas changer mon être. Parce que
ça ne change pas profondément la nature de ce que la personne est.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, profondément, je suis un homme ou une femme. Alors, je peux changer d'apparence, mais je ne peux pas changer mon être.
Ouais, donc ça, c'est un mensonge finalement qu'on dit aux personnes qui changent de sexe. On leur dit, mais oui, pas de problème. Vous allez devenir un homme alors que vous êtes une femme ou inversement. Et en fait, ils ne peuvent pas changer.
Ils ne peuvent pas changer. Ouais. Et en fait, on va aggraver une souffrance. Parce que voilà, ce désir de changer, c'est lié à une souffrance de ne pas se reconnaître en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais finalement, il faut peut-être creuser cette souffrance et comprendre ce mal-être et essayer plutôt de travailler vers une unification de la personne. Finalement, pourquoi je ne veux pas être un homme ou une femme ? Peut-être parce que j'ai une mauvaise image de ce qu'est un homme ou de ce qu'est une femme.
Parce que je n'aime pas mon corps aussi.
Ou parce que je n'aime pas mon corps, voilà. Et donc, y a peut-être plutôt un travail à faire d'accueillir profondément qui je suis. Quel homme particulier je suis, quelle femme particulière je suis, et d'unifier. On est fait pour être un. On est fait pour être vraiment unifié profondément. Et si j'accentue la fracture que je sens dans mon être, je vais diviser. Je ne vais pas pouvoir finalement être vraiment profondément heureux. C'est un mensonge de bonheur, finalement.
Oui, c'est un artifice, mais qui, finalement, ne rend pas heureux.
Oui.
Alors, vous avez étudié la théologie du corps de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, que dit-il de l'égalité de l'humanité ?
Alors, voilà, Jean-Paul II nous dit que l'homme et la femme sont tirés de la même réalité, qu'ils sont profondément égaux en humanité, qu'ils sont appelés à ne faire qu'un, à être féconds. Et nous verrons plus tard que cette fécondité peut se traduire de multiples façons. Et Jean-Paul II nous dit aussi qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre. Ça veut dire que, ça c'est vraiment un leitmotiv dans la théologie du corps de Jean-Paul II, en fait, l'homme et la femme n'ont du sens que parce que l'autre existe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont appelés à la communion, on l'a redit de nombreuses fois, à l'image de la Sainte Trinité. Et pour Jean-Paul II, il y a vraiment cette tâche. C'est vraiment très beau, cette responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Je vais citer sa catéchèse 59. Le Créateur a assigné le corps comme tâche à l'homme. Le corps dans sa masculinité et sa féminité. il lui a assigné comme tâche son humanité, la dignité de la personne et aussi le signe transparent de la communion interpersonnelle dans laquelle l'homme se réalise par le don sincère de lui-même.
Voilà, il faut nous expliquer parce que oui. C'est vrai que c'est dit Jean-Paul II, ça peut être un peu compliqué.
En fait, l'homme a comme responsabilité et comme tâche, on pourrait dire, l'accomplissement de la féminité de la femme. Et la femme a comme responsabilité et comme tâche l'accomplissement de la masculinité de l'homme. Et on peut, alors pour incarner un peu, on peut prendre l'exemple du mariage, en fait. Dans le mariage, l'époux et l'épouse ont leur rôle, ont leur tâche. Et en fait,
chacun selon sa spécificité.
Voilà, oui. Exactement. Mmh. Et l'épouse peut participer à la croissance dans l'être de son mari, de son
en
époux.
En tant qu'homme,
exactement. Mmh. Si elle lui laisse des responsabilités, s'il peut prendre sa place dans l'autorité du couple, de la famille, voilà, s'il peut porter et il va, on va dire, approfondir sa virilité, sa masculinité. Et l'homme va aussi être responsable, finalement, de la féminité de son épouse, s'il lui laisse sa place de femme, avec ses spécificités de telle ou telle femme.
Hein,
évidemment, il
n'y
a pas un seul modèle de femme. Hein, chaque femme a vraiment ses talents uniques. Mais l'homme est vraiment au service, on pourrait dire, de l'accomplissement de la féminité de son épouse. Et pour Jean-Paul II, il y a vraiment cette... il nous appelle vraiment à cette responsabilité de l'homme face à la femme et de la femme face à l'homme.
Mmh. Et ce mot de responsabilité est très important et très beau.
Oui, très beau.
Oui.
C'est un peu notre mission, en fait. C'est-à-dire que nous sommes appelés à devenir pleinement qui nous sommes, ce pourquoi nous avons été créés en tant qu'homme ou en tant que femme, mais on ne vit pas tout seul. On n'est pas des nomades, on n'est pas des monades, indépendantes, autonomes. Non, on est des êtres de relation, des êtres de don, et donc on est appelés à faire croître les personnes qui nous sont confiées dans leur propre humanité et les femmes vis-à-vis des hommes et les hommes vis-à-vis des femmes.
Oui, pour que chacun devienne... plus homme ou plus femme selon ce qu'il est à l'origine.
Oui, absolument.
Ouais. Merci beaucoup Camille de Certaine. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour parler des spécificités de l'homme et de la femme.
Merci Isabelle.